Nous allons rester ce matin sur ces thèmes de cette justification, cette justice que nous recevons en Jésus-Christ, justice que lui nous donne, sur laquelle nous pouvons fonder notre vie et sur le fait de vouloir centrer notre vie sur lui, sur cet aspect merveilleux de notre Dieu, que nous puissions en effet mettre toute notre confiance en lui et croire que lui, il est tout ce dont nous avons besoin. Donc, évidemment, nous approchons de la période de Noël. Fait ou non que nous nous rappelons que Jésus est bel et bien venu dans ce monde, que Dieu a accepté de se rendre vulnérable, humble. Donc c'est une histoire incroyable. Qui autre que notre Dieu aurait pu imaginer un plan du salut pareil ? Dans lequel, donc, lui, on a entendu tout à l'heure qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin, qu'il est celui qui domine sur tout, il est celui qui est tout puissant. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il a accepté de mettre tout cela de côté. C'est comme ça que dans Philippiens 2, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à pratiquer l'humilité, à être prêt à reconnaître les autres comme étant plus importants qu'eux et à se mettre au service les uns des autres, puisqu'il dit que c'est ce qui a motivé Jésus-Christ, c'est ce que lui, il a fait. Paul dit lui qui était en forme de Dieu, qui existait depuis toute l'éternité comme une des trois personnes de ce Dieu trinitaire, il ne s'est pas accroché à ses droits, à son statut, en disant, quand le Père lui dévoile le plan du salut, « Non, mais tu sais à qui tu parles, tu sais qui je suis. Cela, c'est en dessous de moi. Je suis trop important, trop grand, trop merveilleux pour cela. » Et la Bible nous dit qu'il s'est humilié en acceptant de venir sur la terre en tant qu'être humain. Déjà, ça aurait été assez incroyable si Jésus-Christ avait accepté de venir sur la terre comme un roi. Déjà, ça aurait été un abaissement pour lui, qui était le Dieu éternel, de venir sur la terre en tant que roi. Mais lorsque les mages sont parti au palais de Jérusalem pour trouver ce roi des Juifs, ils ont découvert qu'ils avaient donc sous-estimé le plan de Dieu, en imaginant que Jésus allait venir dans un palais comme roi, mais il s'est humilié en venant sur la terre dans une famille quelconque, en acceptant donc en plus de devenir non pas en tant que roi conquérant, mais en tant que petit bébé, et de passer par toutes les étapes de la vie humaine. Vous imaginez, devoir subir la change des couches alors que tu es le créateur de tout, le Tout-Puissant. Et puis grandir et accepter que Marie et Joseph, ses frères, ses sœurs, lui disent ce qu'il doit faire. Et pourtant, la Bible nous dit que c'est ce qu'il a fait. Il s'est humilié jusqu'à ce point, et puis il a accepté que ses propres créatures l'insultent, le condamnent injustement, lui crachent dessus, le fouette et puis le clou sur une croix pour manifester son amour à notre égard. Jésus-Christ, donc, est réellement venu dans le monde. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 1, verset 15, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Heureusement pour nous, Jésus a accepté de s'humilier. Que Dieu nous aimait à tel point qu'il était prêt à faire cela pour nous. Puisque finalement, chacun d'entre nous, on se trouve dans la situation de l'apôtre Paul qui dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Pour vraiment comprendre le plan du salut, pour vraiment comprendre l'intérêt de l'Évangile, on a besoin de se trouver dans la même situation que l'apôtre Paul, de dire « dont je suis le premier ». Je suis le premier à avoir besoin d'être sauvé par Jésus-Christ. Sans lui, moi, je suis perdu. Alors peut-être, tu n'as jamais mis un poussin dans la fosse septique comme Kléber. Et donc tu dis, bon, au moins je suis meilleur que Kléber. Mais la Bible nous dit, tu n'as pas enfreint telle loi, telle partie de la loi de Dieu, mais à telle autre que tu as bien enfreint. Et aux yeux de Dieu, il n'y a aucune différence. Nous avons besoin de reconnaître notre besoin d'être sauvés par Jésus-Christ, mais nous pouvons nous réjouir justement de ce que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc pour nous, effectivement, Noël, ce n'est pas tellement le fait que le Père Noël se coince dans la cheminée en apportant nos cadeaux, c'est surtout que Jésus-Christ soit venu dans le monde pour que nous puissions être sauvés. Nous, on a toutes les raisons de fêter, puisque c'est parce que Jésus-Christ est venu dans le monde que nous avons de l'espérance. Il y a une espérance éternelle que nous pouvons être sauvés. Donc, nous allons poursuivre cette question de notre justification, le fait d'être juste aux yeux de Dieu, donc d'être acceptable à Dieu, et en même temps la question de la sanctification, le fait de vivre une vie chrétienne telle que Dieu nous le demande, à travers un passage dans la lettre aux Romains. En fait, c'est un passage que j'emploie régulièrement pour la préparation au baptême avec les personnes qui ont pris cette décision de se faire baptiser en signe de leur foi en Jésus. Et je profite pour dire que donc on a justement deux personnes qui ont demandé de se faire baptiser. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui n'a jamais encore pris ce pas de se faire baptiser, mais que tu as mis ta foi dans le Seigneur Jésus, Jésus nous appelle à nous faire baptiser. Les disciples disaient, croyez, repentez-vous, croyez dans le Seigneur Jésus, soyez baptisés. Donc, si tu n'as jamais fait ce pas en signe de ce que Dieu a fait pour toi, c'est l'occasion de venir me voir. On peut en parler et puis donc organiser un culte de baptême. Donc, on va lire ce passage que on verra de toute façon dans la préparation au baptême avec les personnes concernées. Donc, c'est surtout Romains chapitre 6. Il y a juste la fin de Romains chapitre 5 qui l'introduit. Donc, Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La semaine dernière, on a vu jusqu'où la loi pouvait aller, à quel point la loi était détaillée et allait jusque dans les moindres détails de la vie de tous les jours. Paul dit, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Et un autre verset, il dit, c'est par la loi que nous apprenons que nous sommes pécheurs. Donc il dit, plus on découvre la loi, plus on découvre les détails qui sont couverts par la loi de Dieu, plus on découvre à quel point nous sommes pécheurs. Parce que nous découvrons combien de domaines de notre vie ne sont pas en diapason avec ce que Dieu désire pour nous. Donc, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. On découvre que, peut-être sur quelques-uns des commandements de Dieu, on ne s'en sort pas trop mal, même si, ce n'est pas à 100%, mais plus on va dans le détail, plus on découvre des péchés en nous, donc le péché abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, parce que ce n'est pas seulement un de nos péchés ou une partie de nos péchés qui sont couverts par la grâce de Dieu, mais c'est tout notre péché. Ce n'est même pas les manifestations de notre péché qui sont couverts par la grâce de Dieu, c'est la nature de notre péché, c'est le péché en nous qui est couvert par la justice de Dieu en Jésus-Christ et par sa grâce. Donc là où ce péché a abondé, la grâce assure abondé, afin que par la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, le Seigneur dit dans ce passage que l'objectif qu'on a devant nous, si on est chrétien, si on a été justifié en Jésus-Christ, c'est la sainteté qui conduit dans la vie éternelle. Donc, nous recevons de la part de Jésus cette grâce d'être juste aux yeux de Dieu, en vue de vivre de manière sainte pour être dans cette vie éternelle. Et donc, on a vu ces dernières semaines comment Dieu demande qu'on sanctifie nos vies, qu'on ait un comportement qui soit saint, qui soit selon les voies de Dieu, comment Dieu nous demande donc d'intégrer ses enseignements, d'intégrer sa sainteté dans notre vie de tous les jours. On a vu en particulier que vivre une vie chrétienne, être chrétien, c'est plus que simplement participer à un culte biblique selon ce que Dieu nous a montré, selon ce qui est juste dans sa parole. Mais Dieu demande qu'on lui donne, qu'on le sert jusque dans les moindres détails de notre vie de tous les jours. On a vu en particulier dimanche dernier que Dieu s'intéresse aux moindres détails de notre vie de tous les jours. Paul va jusqu'à dire ici, vous devez imaginer que vous êtes des esclaves de Dieu qui ne sont plus libres de faire ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, mais que vous êtes au service du Dieu qui vous a sauvé, pour vivre pour lui et pour donc mettre sa volonté en pratique dans votre vie tous les jours. Mais il y a un danger lié à cela, un danger qui est en quelque sorte entre l'ennemi qui cherche à nous faire douter de l'amour et de la grâce de Dieu et notre propre orgueil qui finalement n'aime pas l'idée que Dieu a tout fait pour nous et que nous, nous ne pouvons rien ajouter à notre salut, à notre justification. Le danger, c'est de finir par penser que notre justification dépend de notre sanctification. C'est-à-dire que notre justification dépend de notre obéissance, de notre comportement en tant que chrétien, et que finalement, nous sommes assurés dans notre salut parce que nous faisons telle ou telle chose. Nous ajoutons notre comportement bien à l'œuvre de Jésus. Et que finalement, c'est sur cette base-là que nous sommes sauvés et que Dieu nous accepte. Heureusement pour nous d'ailleurs, que notre justification, le fait d'être sauvé, d'être enfant de Dieu, ne dépend pas de notre obéissance et de notre sainteté. Parce que si tel était le cas, on pourrait fermer l'église parce que nous serions tous perdus d'avance. Il n'y aurait plus d'évangile, plus de vie éternelle, plus de communion avec Dieu, puisque même en tant que chrétiens, nous sommes encore dans un corps de chair, et donc jusqu'au dernier jour, lorsque Dieu nous transformera parfaitement, notre obéissance reste imparfaite. Comme disait le psalmiste dans le psaume 130, verset 3, que des paroles que nous chantons parfois, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» Comment pourrions-nous nous tenir devant Dieu si Dieu ne faisait pas grâce de nos péchés? Dans un autre chapitre de la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 20, Paul dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne, par son comportement, ne peut se justifier devant Dieu. Car, dit-il dans le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce chapitre 3 de l'Épître aux Romains montre que lorsque la Bible insiste sur l'importance de la sanctification, sur l'importance d'une vie transformée, d'une vie changée en tant que chrétien, d'une vie conforme à la volonté de Dieu, elle prend d'abord pour acquis la justification en Jésus-Christ par la grâce seule, par le moyen de la foi. Comment ? Si on lit tout ce passage dans Romains 3 à partir du verset 19, Paul dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Si on cherche par notre comportement à gagner la faveur de Dieu, nous sommes tous perdus. Parce que la parole de Dieu nous ferme la bouche à chaque fois qu'on essaye de convaincre Dieu qu'on est suffisamment bon pour qu'il nous accepte. La loi de Dieu trouve nos failles, trouve nos imperfections, trouve notre péché. Et même la lettre aux Hébreux nous dit que finalement, donc, même en tant que chrétien, le péché reste accroché à nous, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais, dit Paul, maintenant sans la loi et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a point de distinction. Personne ici ce matin n'est approuvé de Dieu, n'est enfant de Dieu parce qu'il est meilleur que les autres. Chacun d'entre nous est là parce que Dieu nous a gratuitement justifiés en Jésus-Christ par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qui nous offre dans sa grâce et que nous recevons par la foi. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu nous offre dans sa grâce le pardon de nos péchés, la justice de Dieu que nous recevons par la foi. Alors, versets 21 et 22, « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » C'est le fondement pour chacun d'entre nous, donc, de notre relation avec Dieu. C'est le fondement de notre espérance. C'est le fondement de tout ce qui nous fait croire que nous avons accès auprès de Dieu, que nous pouvons le connaître, qu'il vient par son esprit habiter dans notre vie, que nous avons une perspective éternelle avec lui dans sa présence. Toute notre espérance se trouve là. C'est pour ça que tout à l'heure, dans ce chant que nous avons chanté en début de culte, nous avons pu chanter « En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est mon fondement. » Puisque toute espérance que nous avons vient du fait que Dieu, dans sa grâce, nous a donné la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, ça veut dire que si nous croyons en Jésus, vraiment, de tout notre cœur, d'une manière qui bouleverse notre vie, nous recevons à ce moment-là, par la grâce de Dieu, une justice absolument parfaite devant Dieu. C'est pour ça que mon comportement, quelque part, est indépendant. Mon salut, cette relation avec Dieu, d'une certaine façon, ne dépend pas du fait que j'ai pu obéir parfaitement, parce que Dieu ne me demande pas d'obéir parfaitement pour être justifié, parce qu'il sait que j'en suis incapable, puisque je suis être humain, né dans le péché. Mais Dieu ne le demande pas parce que finalement, il m'offre une justice parfaite. C'est important de se rendre compte de l'étendue de ces mots que Paul a écrits ici sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu a voulu nous convaincre que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous avons accès à sa grâce. Et sa grâce nous donne une justice absolument parfaite. Donc lorsque même l'ennemi vient pour nous accuser, puisque un de ses titres c'est l'accusateur des frères, une de ses techniques c'est de venir essayer de nous séparer de Dieu, un peu comme il faisait dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, vous avez peut-être remarqué ce qui s'était passé. L'ennemi arrive à leur tendre cette tentation, à les convaincre en mettant des doutes sur l'amour de Dieu, sur la bonté de Dieu à leur égard, a mis devant eux l'idée qu'eux, ils pouvaient être en contrôle de leur vie, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans qu'il y ait de conséquences. Adam et Ève, donc, ont cédé, ont péché, mais quel était le but de l'Éternel? Qu'est-ce qui s'est fait tout de suite après? Adam s'est caché par honte lorsqu'il s'est trouvé devant Dieu, lorsque Dieu est venu pour leur entretien régulier dans le jardin d'Éden. L'ennemi voulait les séparer de Dieu par honte pour que Adam ne puisse plus profiter de cette relation que Dieu voulait avec lui. Parfois, l'ennemi vient vers nous aussi, dans le même objectif, en essayant de nous séparer de Dieu, en nous accusant, en nous, même pas à tort, généralement, mais en nous accusant, en nous présentant nos péchés. et en nous disant, bah, tu vois ce que tu as fait? Tu penses que tu peux encore te présenter devant Dieu? Tu penses que tu es toujours chrétien? Tu penses que Dieu veut de toi pour qu'on se cache de Dieu, pour nous séparer de lui? Mais à ce moment-là, nous pouvons justement par la foi venir contre lui avec ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ce n'est pas pour rien que Paul ajoute cette petite phrase « Justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » La semaine dernière, nous avons vu combien la loi de Dieu allait jusque dans les moindres détails de la vie de tous les jours du peuple de Dieu. On avait vu Dieu de leur donner des règles, même en ce qui concernait leur comportement lorsque un bout de lézard mort tombe dans la jarre d'eau. Mais Paul dit, nous avons reçu par grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, une justice tellement parfaite que c'est la justice qui est décrite par toute la loi de l'Ancien Testament et en prime qui est clarifiée, spécifiée, appliquée par les prophètes. Parce que souvent les prophètes, ils venaient au peuple en disant « Je pense que vous n'avez pas bien compris. » Lorsque Dieu a dit telle chose, voici ce que cela doit impliquer pour ta vie aujourd'hui. Donc normalement, effectivement, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit la loi de l'Éternel, et puis quand on lit l'application donnée par les prophètes, comme dit Paul, on doit prendre connaissance de notre péché et de notre culpabilité. Mais il dit, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous devons également, en même temps, lire cela en se rendant compte que tout cela est couvert par Jésus-Christ et par sa justice que nous avons reçue dans la grâce de Dieu. C'est puisque Jésus-Christ, finalement, lorsqu'il est venu sur la terre, il a vécu parfaitement depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort, il a accompli parfaitement la loi de Dieu. La Bible nous dit, il a été tenté, mais il n'a jamais cédé. Il a tout fait comme Dieu lui demandait dans sa parole. Jusqu'à dire à Marie et Joseph, mais vous devriez savoir que je serai occupé des affaires de mon Père. Jésus s'est occupé des affaires de son Père en faisant tout comme Dieu le demandait dans sa parole jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc lui, sa justice est parfaite. C'est la justice décrite par la loi. C'est la justice spécifiée par les prophètes. Et c'est sa justice que Dieu nous donne par la foi en Jésus-Christ dans sa grâce. Une justice parfaite. Justice de Dieu. Donc si nous sommes chrétiens, nous nous présentons devant Dieu avec une justice totalement parfaite, comme si nous pouvions dire que depuis le jour de notre naissance, on avait obéi parfaitement aux moindres détails de la loi de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas nous, c'est Jésus qui a vécu parfaitement selon le moindre détail de la loi de Dieu. Mais c'est cette justice-là que nous recevons en Jésus-Christ. D'où, en tant que chrétien, à partir de là, nous sommes en paix avec Dieu. Une paix parfaite parce que nous sommes couverts par une justice absolument, strictement parfaite. Pour cela qu'on peut parler de l'assurance du salut. Pour cela que nous avons cette assurance que si nous sommes accrochés à Jésus-Christ jusqu'au bout, jusque dans l'éternité, nous avons cette assurance qui ne nous perdra pas, qui ne nous chassera pas, parce que nous avons la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes comme fondement de notre relation avec Dieu, comme fondement de notre vie. Une justice qui couvre le moindre détail de notre vie. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas, ce que dit Paul dans Romains chapitre 3. Nous disons, vous avez reçu la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Mais un autre passage où l'apôtre Paul emploie ce terme de justice de Dieu, où moi je dirais presque, il va encore plus loin dans ses propos à notre égard. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Puisque la Bible nous dit que Dieu a posé tout notre péché sur Jésus, que Jésus a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Il l'a fait devenir péché pour nous. Écoutez bien, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il dit non seulement vous avez reçu la justice de Dieu, mais en Jésus-Christ, le plan de Dieu, c'est que vous êtes devenu justice de Dieu. Avoir une chose, c'est déjà pas mal. Mais devenir une chose, c'est encore plus. Le plan du salut de Dieu, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus en lui justice de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle de l'importance de notre comportement, de l'importance de la sanctification. Et nous dit, en Jésus-Christ, vous êtes juste. Et si nous sommes justes, alors soyons justes dans notre vie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est croire tout ce que Dieu nous dit. C'est effectivement croire que Dieu nous donne la justice parfaite de Dieu en Jésus-Christ, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Mais c'est croire également que nous sommes devenus en lui justice de Dieu. La foi, c'est plus que simplement croire que dans l'Évangile, nos péchés sont pardonnés et Dieu nous permet d'éviter les conséquences de notre péché. C'est croire que Dieu a voulu qu'en Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. C'est puisque je suis devenu justice de Dieu que je n'ai plus de crainte dans ma relation avec Dieu. Je peux me présenter devant lui sans crainte. Que l'auteur aux Hébreux nous dit, alors allons avec confiance devant le trône. Entrons avec confiance dans la présence de Dieu parce que nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais quelque part, si je suis devenu justice de Dieu, si je crois vraiment que je suis devenu justice, c'est pas simplement que je suis un pécheur qui a reçu et qui détient la justice de Dieu, mais je suis devenu justice de Dieu, alors par la foi, je vais vouloir commencer à ressembler à la justice de Dieu qui est décrite par la loi et les prophètes. Non pas parce que quelque part, il y a un trou dans ma justice et que j'ai besoin de combler ce trou par ma sanctification, mais parce que ben, si je suis devenu justice de Dieu, ben, c'est normal que je ressemble à cela. Ce n'est même pas que je l'ai, je le suis devenu, je le crois. Donc, je collabore avec l'Esprit de Dieu pour que je ressemble à ce que je crois être. Si on retourne dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul dit donc que nous avons reçu cette justice, que c'est par la grâce. Et puis il dit donc, que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Et dans le grec, ce terme, cette phrase qui est traduite par « loin de là », c'est comme de nos jours, mais quelle idée ! Mais ça ne va pas ! Évidemment, on ne va pas faire comme ça, on ne veut pas raisonner en disant bah, « Puisque j'ai reçu la justice de Dieu, je vais rester dans le péché pour que ma vie démontre la grâce de Dieu. » Si nous sommes devenus justice de Dieu, la justice... Merci. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, forcément, nous allons chercher vraiment à le devenir parce que nous croyons dans ce mot que Dieu a suscité chez Paul, devenir justice de Dieu. Et donc, par la foi, nous cherchons à devenir justice de Dieu. Nous cherchons à démontrer par notre vie que nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Donc, est-ce que nous allons continuer à rester dans le péché? Mais loin de là, mais quelle idée! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ou un peu plus loin dans le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Encore une fois, Paul dit, « Loin de là. » Mais quelle idée! Mais ça ne va pas! Bien sûr que non, nous n'allons pas faire ça parce que nous croyons que Dieu a fait que Jésus devienne péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et si je suis devenu justice de Dieu, je ne vais pas choisir de continuer à démontrer l'injustice par ma vie. Au contraire, je vais chercher vraiment à être ce que Dieu me dit que je suis devenu. Peut-être imparfaitement, d'accord, mais avec cet objectif, avec l'assurance qui vient du fait d'être couvert par la justice parfaite de Dieu offert en Jésus-Christ, qui fait que j'ose me présenter devant Dieu pour m'excuser, pour me repentir, pour demander son aide, d'encore combattre contre le péché qui s'est resté accroché à moi. Mais je ne vais pas choisir d'être injustice, d'être l'image du péché, alors que je crois qu'en Jésus-Christ, je suis devenu justice de Dieu. Je ne peux pas moi-même me justifier avec la justice de Dieu, parce que c'est au-delà de mes capacités. Ma chair rend cela impossible. Mais je crois que Dieu m'a donné la justice décrite dans tout l'Ancien Testament et que grâce à cela, je suis devenu justice de Dieu. Et j'y crois suffisamment pour que ça se voit dans ma vie, dans mes choix, dans mes valeurs, dans tout ce que je suis. C'est comme dit Jacques, dans Jacques chapitre 2, d'abord le verset 14 et puis de 20 jusqu'à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? À quoi ça sert? Dire, oh oui, moi je crois que Dieu a fait de moi justice de Dieu. Ma vie proclame tout le contraire, mais j'y crois vraiment. Oui. C'est juste le fruit du hasard que ma vie proclame le contraire. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? En autre terme, si ta foi n'a pas de conséquences pratiques dans ta vie, en fait, c'est juste des paroles. Il n'y a pas de foi. Mais c'est par la vraie foi qu'on a accès à la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous donne accès à la justice de Dieu parfaite, décrite par la loi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Pourtant, il va dire un peu plus loin, qu'est-ce qui est écrit? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham a été sauvé par la foi, mais il dit par une foi réelle qui se voit, qui se traduit dans la pratique de la vie. Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Autrement dit, comment est-ce que Dieu savait qu'Abraham a cru pour qu'il l'invite à justice? Comment pouvons-nous savoir qu'Abraham était sérieux lorsqu'il a cru en Dieu? C'est parce que on voit qu'il a conduit Isaac jusqu'à l'autel, qu'il était prêt à la sacrifier, parce que nous dit l'auteur aux Hébreux, Abraham avait une telle foi en Dieu qu'il était convaincu que Dieu réaliserait sa promesse à son égard, même si il devait mettre à mort Isaac, l'héritier. Mais il était convaincu que puisque Dieu est fidèle à tout ce qu'il dit, Dieu le ressusciterait d'entre les morts, c'est nécessaire pour réaliser la promesse qu'il lui avait donnée. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu suffisamment d'offrir son fils Isaac. Et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Non pas une foi qui n'est qu'une couverture, qui n'est qu'une parole. La foi réelle se voit. Dire « Je suis devenu en Christ justice de Dieu ». Mais je vais vivre dans l'injustice. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as comme foi? Mais ça, c'est pas la foi. La foi dit, je suis devenu justice de Dieu. Du coup, ça doit avoir une conséquence sur mon comportement. Croire que je suis devenu justice de Dieu. Rahab la prostituée, continue Jacques, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Rahab avait réellement foi dans ce que Dieu avait dit. Elle était convaincue que Dieu avait dit qu'il allait donner le pays dans lequel elle vivait aux Israélites. Donc elle dit, j'ai du coup intérêt à me ranger du côté des Israélites, même si dans le présent, ça la mettait en danger. Mais elle a dit, je le fais parce que je crois dans ce que Dieu a dit et je crois que bientôt, ça va être Israël, les maîtres de mon pays. Donc j'ai intérêt de leur montrer la faveur et de leur demander de me montrer la faveur à moi et à ma famille lorsqu'ils sont devenus les maîtres. Elle croyait suffisamment dans la parole de Dieu de se mettre dans l'immédiat en danger, puisque bon, pour l'instant, c'était toujours le roi de Jéricho qui régnait sur son territoire. Elle était en train d'agir contre les autorités actuelles, mais elle était convaincue que Dieu avait dit qu'il allait avoir bientôt un changement dans les autorités, que ce serait son peuple qui allait gouverner. Si elle n'avait pas vraiment cru dans ce que Dieu avait dit, elle les aurait rendus aux autorités sur place, parce qu'elle aurait dit, « Ah ben, j'ai pas de preuve qu'Israël va devenir les maîtres. On vit dans la ville la plus fortifiée de notre pays. On est imprégnable, donc moi, je vais garder faveur auprès des autorités du roi de Jéricho. C'est là qu'est mon avenir. » Mais non. Elle avait une vraie foi dans ce que Dieu avait dit. Donc elle dit, puisque j'ai foi, je me mets même actuellement en danger parce que je sais que bientôt, ce que Dieu a dit se réalisera. Un peu comme nous, si on se dit, Dieu m'a dit que bientôt, il va venir juger la terre. Donc, je vais, même si actuellement ça m'attire des ennuis, je vais me ranger du côté du royaume de Dieu. Je vais me comporter comme Dieu me le demande de le faire. Parce que je sais que bientôt, il y aura un renversement de situation. Et c'est Dieu et ses amis qui vont être justifiés. Donc j'ai tout intérêt à me ranger de son côté, de faire comme lui, il me le demande. Mais la foi est visible. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et donc, Paul va dire dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Une foi réelle, pratique, concrète qui se voit. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je suis sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, qui croit qu'en Jésus-Christ, Dieu a fait de sorte que je suis devenu justice de Dieu. Dieu m'a sauvé dans sa grâce, non pas par mes œuvres, donc je ne peux pas me glorifier, mais il m'a sauvé en Jésus-Christ pour faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en Jésus-Christ afin que je les pratique. Donc, bien évidemment, parce que j'y crois, je vais collaborer avec le Saint-Esprit pour l'accomplir. Puisque je suis devenu justice parfaite de Dieu, je vais chercher à vraiment devenir justice parfaite de Dieu dans ma vie. Parfois, on présente la question de la justification et de la sanctification un peu comme la question de l'œuf et de la poule. où on cherche à savoir ben, lequel vient en premier. Et on a l'impression que ben on peut pas les séparer l'un de l'autre et que on sait pas trop lequel vient en premier. Mais je dirais, quand on regarde ce que dit la Bible sur la justification et la sanctification, c'est pas tellement la question de l'œuf et de la poule, c'est plutôt la question de la charrue et les bœufs. Dieu me demande de me sanctifier, non pas pour être juste à ses yeux et donc d'être sauvé, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen, un seul chemin pour être sauvé, c'est de recevoir la justice de Dieu, de Jésus-Christ. Tite chapitre 3, « Lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Aujourd'hui, réjouissons-nous de ce que Dieu, dans sa grâce, nous donne la justice parfaite accomplie par Jésus-Christ, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes jusque dans leurs moindres détails. Mais en se réjouissant de cela, que cette foi dans ce que Dieu a fait pour nous nous encourage à vivre pour lui selon la justice. Car nous sommes devenus en lui justice de Dieu.